Au quotidien, avec Hélène Denis.
Jeudi 20 novembre 2025, j'espère que vous avez bien dormi, Mathieu.
Mon score, je sais pas, j'ai pas regardé. Laissez-moi vous dire ça tout de suite. J'ai un score de 63 % ce qui est pas très bon.
Non, 63?
Mais ma nuit a été courte.
Ah, OK. Mais vous avez l'air de bonne humeur. Vous avez un teint frais.
J'adore ma job.
Oui. Une chance parce que vous travaillez beaucoup. Au menu du jour, nous aurons la chronique psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière. Son sujet d'aujourd'hui, une question qui va comme suit. Comment les limbes juridiques influencent-ils la sécurité psychologique des demandeurs d'asile et leurs familles? À suivre, donc, ce sera autour de 10h40 et quelques. Nous aurons les parasports avec Dominique Tremblay. Aussi, nous aurons plusieurs belles chansons. Nos chroniqueurs, Yvan Deslauriers, qui viendra nous rejoindre autour de 10h avec un sujet qui va intéresser tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes des marcheurs, vous, Mathieu, oui. Un grand marcheur, un grand promeneur.
Je me déplace à pied.
Il y a eu un dossier hier qui a fait beaucoup réagir, publié dans la presse plus. La marche recule. Paraît-il que les gens marchent moins et c'est sûr que c'est un enjeu de santé publique. Yvan va parler de cet article, va lire l'article pour nous. La marche, donc, une activité en perte de vitesse. Mais c'est sûr que quand il fait froid puis que les trottoirs sont glacés, ça donne moins envie de sortir.
Mais si on demande aussi aux gens de marcher à reculons, c'est peut-être pas une bonne façon de les faire marcher aussi.
Oui, il y en a qui dansent à reculons, mais pour marcher à reculons, c'est peut-être moins évident. Monique, êtes-vous une grande marcheuse? Bonjour, Monique Kirouac.
Oui, bonjour Hélène, bonjour Mathieu. Oui, oui, je suis une adepte de la marche,
oui.
Tout à fait.
Oui. La randonnée pédestre.
Oui, tout à fait. Puis je suis très choyée parce que j'ai des pistes un peu partout dans la région qui me permettent d'avoir des déplacements peut-être plus sécuritaires qu'au centre-ville de Montréal.
Ah, la marche en forêt, c'est le rêve pour plusieurs.
Exactement.
Et c'est certainement ce qui fait en sorte que vous ne faites pas votre âge.
Peut-être. Alors, ben oui, je vais parler d'âge. Je vais parler de vieillissement. Oh là là. Mais on y passe tous, hein, Hélène.
Mais tout le monde vieillit.
Alors, tout le monde vieillit. D'une année, c'est incontournable.
On vieillit ou on meurt, alors? Moi, je préfère vieillir, je pense.
On va rester vivant, si vous voulez bien. Puis on va se demander, ben, on se demande tous, en fait, est-ce qu'on va vieillir en santé? Et, ben, peut-être, le savez-vous, mais on aurait deux âges, en fait. On a l'âge chronologique, soit le changement à chaque année, mais on a aussi un âge biologique. Alors, cet âge biologique, on va parler d'horloge épigénétique, là, c'est l'usure de notre corps. Alors, il peut nous être révélé par des tests. Il y a des tests qui sont faits sur la population par des chercheurs. Ça, c'est une chose, très balisée dans ses paramètres et tout ça. Mais il y a aussi des tests qui sont vendus. Et ben, les scientifiques se sont penchés sur ces tests-là pour en voir la fiabilité, en fait. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser, je le révélerai dans l'article, un certain montant d'argent pour savoir quel est notre âge chronologique et se sentir, heureux de savoir qu'on est plus jeune que notre âge chronologique.
Très intéressant. Quel âge me donnez-vous? Est-ce que vous vous souvenez de ce slogan-là?
Ah non?
Une publicité d'I Love Olay. Une crème pour le visage. Quel âge me donnez-vous?
Ah oui, je me souviens.
C'est un autre dossier. Merci, oui. Monique, à tantôt.
plan, la grande évasion. Oh, c'est une révélation. Y'a une ampoule brûlée au-dessus de ma tête. Envie de manquer de train juste avant le ravin. Nos carisseaux pour enivrer par le beau. Moi, j'aime et j'aime aussi. Ce plat, c'est du génie.
Patrice Michaud, La Grande Évasion.
Alors, allons-y avec les unes des journaux. En une du Devoir de ce 20 novembre, une école a failli à protéger une élève victime de porno juvénile. La protectrice de l'élève constate plusieurs manquements de l'établissement secondaire privé dans la gestion du dossier concernant des images sexuelles générées par l'IA. L'intelligence artificielle, c'est une histoire racontée par Jessica Nadeau. Une frappe russe fait au moins 26 morts en Ukraine. Également à la une du Devoir, politique québécoise, « Je n'ai rien à cacher », affirme Pablo Rodriguez. Pablo Rodriguez dit n'avoir rien à se reprocher après les révélations éclaboussant le Parti libéral du Québec depuis le début de la semaine, à commencer par la publication de messages textes qui laissent penser que des membres ont pu être payés pour le soutenir durant la course à la chefferie. J'ai été ministre pendant de nombreuses années, j'ai été député pendant de nombreuses années, a déclaré M. Rodriguez dans un long point de presse hier après-midi. Il n'y a jamais personne qui a remis en question mon intégrité. Il n'y a jamais personne non plus ici qui dit que moi, j'étais au courant de quoi que ce soit. Alors, autre titre média, Luce Julien, le respect des faits avant tout. Luce Julien, c'est un texte de Stéphane Baillargeon qui quittera dans quelques semaines son poste de directrice générale de l'information de Radio-Canada, a rencontré des employés la semaine dernière. Elle leur a parlé des collègues du groupe TVA qui venaient d'annoncer de nouvelles compressions. La branche télé de Québécois abolit 87 postes en novembre, ce qui porte à près de 800 les emplois supprimés dans les deux dernières années à cause de pertes nettes totalisant plus de 90 millions de dollars. Ainsi va la triste crise des médias. C'est une catastrophe qui se déroule sous nos yeux, dit Mme Julien, rencontrée mardi dans la grande maison de CBC Radio-Canada à Montréal pour faire le point sur son septennat qui se termine. En région, partout, c'est gravissime et j'entends très bien ce que dit Pierre-Carl Péladeau. Ce que répète notamment le grand patron de Québécois, c'est que le diffuseur public devrait laisser le marché publicitaire au secteur privé. En plus, cette solution à quelques centaines de millions plairait aux téléspectateurs. Si on enlevait la publicité à Radio-Canada, irait-elle à TVA ou aux géants du numérique? Réplique la Radio-Canadienne. Je ne sais pas. Je pose la question. Et à la une, pardon, du Journal de Montréal, Agence du revenu du Canada, la maison qui rend fou. Bonne chance pour appeler Revenu Canada. Le service est tellement déficient à l'Agence du revenu du Canada que près de 1 million de personnes ont dû appeler l'an dernier parce qu'elles n'arrivaient pas à accéder à leur compte en ligne. L'émission JE, diffusée ce soir à TVA, expose l'enfer bureaucratique qu'ont vécu des contribuables face à Revenu Canada pour différentes raisons, rappelant la maison qui rend fou du film Les 12 travaux d'Astérix. Le dénominateur commun de leurs histoires, le mauvais service qu'ils ont reçu et qui les a plongés dans des mois, voire des années de confusion. On a l'impression d'être face à un mur. C'est terrible, déplore Carole Achour, qui a dû appeler une dizaine de fois sur une période de 8 mois pour qu'on lui redonne l'accès à son compte en ligne qui était bloqué. Et puis, je termine avec la une de la presse plus d'aujourd'hui. Pablo Rodriguez, le Parti libéral, dans la tourmente, c'est ce qu'on peut lire. de nouveaux échanges de textos troublants au sujet de la campagne à la direction du chef Pablo Rodriguez. Circulerait, s'inquiète des sources libérales. Chronique de Paul Journet, de la fumée et un casse-tête. Et on dit que dans la mise à jour qui a été publiée à 7h35, Marois Risky mise en demeure, renvoyée cavalièrement par Marois Risky, son ex-directrice de cabinet Geneviève Hinz, lui a envoyé une mise en demeure pour qu'elle admette publiquement ce jeudi l'absence de motif justifiant son congédiement, à défaut de quoi elle la poursuivra pour obtenir compensation pour le grave préjudice subi. Un autre titre à la une de la Presse Plus, « La vie, la ville, les couche-tôt font la fête, les événements pour danser à des heures raisonnables se multiplient à Montréal. » Alors maintenant, on ne sort plus la nuit, mais on sort l'après-midi pour aller danser. Et paraît-il que c'est bien amusant. Faire le party comme s'il y avait un lendemain, un événement organisé en après-midi et en début de soirée par heure ouvrable. Alors, c'est un article d'Émilie Côté qui raconte qu'après avoir franchi la porte d'entrée, une préposée à l'accueil marque notre présence en tamponnant notre poignet d'encre noire. Des gens dansent, le DJ est aux platines, le DJ under the bed, alors que des gens font la queue au bar pour un verre. Non, il n'est pas 4 heures du matin, mais bel et bien 16 heures. Il fait encore clair à l'extérieur, les portes sont ouvertes depuis 14 heures et fermeront à 20 heures. Il s'agit du troisième événement dansant du collectif Heure ouvrable, formé par trois amis qui avaient envie d'organiser des fêtes diurnes pour faire le party, comme s'il y avait un lendemain. Alors, prochain événement, ça va se passer le 21 février dans un lieu à déterminer et des billets sont déjà en vente au coût de 15 $.
Quand j'étais Avec moi.
Alexandre, c'était 50-52, 5052.
Et c'est la chronique de Monique Kirouac, 5052. Est-ce qu'un jour, on va se rendre là? Côté âge, je dis. Mais je sais que...
J'espère que non, Hélène.
Mais pourquoi pas?
Ben, je sais pas, là.
Parce que quand on meurt, on n'en revient plus, là. C'est long, longtemps.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
L'éternité, c'est long, surtout vers la fin, c'est ce que disait, je pense, bien Woody Allen.
Oui, il a bien raison. Oui, il a bien raison. Alors, l'article que j'ai retenu aujourd'hui, Hélène, a été rédigé par Hassan Valé, qui est professeur adjoint en épidémiologie à l'Université Deakin, qui se trouve en Australie. Alors, je pense qu'on aime tous nous imaginer bien vieillir. Et puis aujourd'hui, semble-t-il qu'un simple test sanguin ou salivaire nous promet de nous dire, ça sera le cas, en mesurant notre âge biologique. Alors, comme on le disait en présentation, alors que l'âge chronologique correspond à la durée de notre vie, les mesures de l'âge biologique visent à indiquer l'âge réel de notre corps en prétendant mesurer l'usure, et ce, au niveau moléculaire. Alors, c'est sûr que l'attrait de ces tests est indéniable. Les gens soucieux de leur santé peuvent voir leurs résultats comme une confirmation de tous les efforts déployés pour contrer le vieillissement. Mais ces tests sont-ils vraiment fiables? Offrent-ils réellement des informations utiles ou s'agit-il simplement d'un habile stratagème, marketing déguisé en science? Alors, comment les tests fonctionnent-ils? Au fil du temps, les processus chimiques qui permettent à notre corps de fonctionner, appelés activité métabolique, entraînent des dommages et un déclin de l'activité de nos cellules, tissus et organes. Les tests d'âge biologique visent à saisir certains de ces changements, offrant alors un aperçu de notre santé ou de notre état de vieillissement au niveau cellulaire. Notre ADN est également affecté par le processus de vieillissement, en particulier des marqueurs chimiques que l'on appelle aussi groupes méthyle, s'y fixent donc sur notre ADN et affectent l'expression des gènes. Ces changements se produisent de manière prévisible avec l'âge et les expositions environnementales dans un processus que l'on appelle la méthylation. C'est donc des réactions chimiques que subit notre ADN à cause justement de l'environnement et aussi de peut-être notre alimentation et de d'autres intrants importants. Des études scientifiques ont utilisé des horloges épigénétiques qui mesurent cet effet chimique, la méthylation de nos gènes, pour estimer l'âge biologique. En analysant leur niveau à des endroits spécifiques du génome à partir d'échantillons prélevés sur les participants, les chercheurs appliquent des modèles prédictifs pour estimer l'usure cumulative du corps. Alors, on voit que c'est quand même assez complexe, là. Il y a des prélèvements du génome, donc, dans notre ADN, et il y a des modèles qui sont élaborés de façon très méticuleuse, dirais-je. Alors, que dit la recherche à propos de leur utilisation? Bien que la science évolue rapidement, les preuves étayant l'utilisation des horloges épigénétiques, donc de notre usure, là, pour mesurer le vieillissement biologique dans les études de recherche sont solides.
Ah.
Oui, mais c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est vraiment avec des prélèvements multiples sur de mêmes participants. Et c'est des analyses sur des populations. Des études ont montré que l'estimation de l'âge biologique épigénétique est un meilleur prédicteur du risque de décès et des maladies liées au vieillissement que l'âge chronologique. Il a également été démontré que les horloges épigénétiques sont fortement corrélées au mode de vie et aux expositions environnementales telles que le tabagisme et la qualité de l'alimentation. De plus, ils se sont avérés capables de prédire le risque de maladies telles que les maladies cardiovasculaires qui peuvent entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Dans l'ensemble, un nombre croissant de recherches indique que les horloges épigénétiques sont des mesures fiables du vieillissement biologique et sont étroitement liées au risque de maladie et de décès. Mais ces tests sont-ils vraiment fiables pour les individus? Parce que là, on parle de tests sur des populations, et comme je disais, avec différents prélèvements sur un même individu. Alors, si ces tests sont précieux pour étudier des populations dans le cadre de la recherche, l'utilisation d'horloges épigénétiques par des entreprises commerciales pour mesurer l'âge biologique des individus, c'est une toute autre affaire et ça nécessite un examen approfondi. Le facteur le plus important à prendre en considération pour les tests au niveau individuel est sans doute leur précision. Il s'agit de déterminer si un seul échantillon prélevé sur un individu peut donner des résultats très différents. Alors, Hélène, il y a une étude qui a été réalisée en 2022 et qui a révélé que les échantillons présentaient des écarts pouvant aller jusqu'à 9 ans. Ainsi, un échantillon identique prélevé sur une personne de 40 ans peut indiquer un âge biologique aussi bas que 35 ans. Donc, wow, on est content, une raison de se réjouir, ou aussi élevé que 44, peut-être une source d'inquiétude. Alors, bien que ces tests aient été considérablement améliorés au fil des ans, leur précision varie considérablement d'un fournisseur à l'autre. Ainsi, selon la personne à qui vous envoyez votre échantillon, votre âge biologique estimé peut varier considérablement, comme on vient de l'illustrer.
Oui, des résultats qui font plaisir, d'autres qui déçoivent.
Ben oui, c'est ça. Alors, on choisit lequel, hein?
On va aller vers le positif.
Oui, c'est ça exactement. Le verre à moitié plein.
Oui.
Une autre limite, semble-t-il, réside dans l'absence actuelle de normalisation des méthodes utilisées pour ces tests. On le devine, les entreprises commerciales effectuent ces tests de différentes manières en utilisant différents algorithmes pour estimer l'âge biologique à partir de données. Et comme on peut s'y attendre, ben, ces entreprises ne divulguent pas leurs méthodes. Il est donc difficile de les comparer et de déterminer laquelle fournit les résultats les plus précis et ce que vous obtenez pour votre argent. Une troisième limite réside dans le fait que, bien que les horloges épigénétiques soient étroitement liées au vieillissement, elles ne sont qu'un indicateur et ne constituent pas un outil de diagnostic. En d'autres termes, elles peuvent fournir une indication générale du vieillissement au niveau cellulaire, mais elles ne fournissent aucune information spécifique sur les problèmes potentiels d'une personne qui vieillit plus vite qu'elle ne le souhaiterait, ni sur ce qu'elle fait de bien si elle vieillit bien. Alors, quel que soit le résultat du test, tout ce que l'on obtiendra probablement de fournisseurs commerciaux de tests épigénétiques, ce sont des conseils génériques sur ce que la science considère comme un comportement
bon.
Alors, est-ce que ça en vaut la peine ou est-ce qu'on devrait, qu'est-ce qu'on devrait faire à la place? Est-ce que ça en vaut la peine de faire ces tests?
Je dirais que non. Manger bien, bouger, dormez bien.
Hélène, vous me devancez.
C'est la base.
Oui, exactement. Alors, même si les entreprises qui proposent ces tests ont de bonnes intentions, il ne faut pas oublier quel est leur objectif final. Nous vendre ces tests et réaliser un profit. Ça coûte environ 500 $, Hélène, pour un petit prélèvement de notre salive ou un test sanguin. Si l'idée d'utiliser ces tests comme un outil de santé personnalisé est prometteuse, il est clair qu'on n'est pas encore rendu là. Pour que ça devienne une réalité, ben, ces tests devraient être plus reproductibles, standardisés entre les différents prestataires et validés par des études à long terme qui établissent un lien entre les changements de l'âge biologique et des comportements spécifiques. Ainsi, si les tests ponctuels de l'âge biologique font sensation sur les réseaux sociaux, ben, ils représentent pour la plupart des gens un coût important et offrent une valeur réelle limitée. La bonne nouvelle, c'est ce que nous savons déjà, ce qu'il faut faire pour augmenter nos chances de survivre plus longtemps et en meilleure santé. Vous en avez nommé quelques-uns, Hélène, en effet, améliorer notre alimentation, donc éviter tous les aliments ultra-transformés, augmenter notre activité physique, comme nous le suggérera Yvan, marchons, et peut-être un petit peu de musculation aussi, dormir suffisamment, arrêter de fumer, réduire le stress et privilégier les relations sociales.
Les relations sociales, mais avec des mocktails plutôt que des cocktails.
Oui, peut-être. Oui. Il faut faire attention à ce qu'on fait dans ces relations-là. Alors, on n'a pas besoin de connaître notre âge biologique pour apporter dès maintenant des changements dans notre vie afin d'améliorer notre santé. On en parle assez souvent, Hélène. Hein? Ça devrait rentrer dans la tête de nos auditeurs, nos auditrices. Et probablement qu'à ce moment-là, on vivra en santé puis que notre âge chronologique sera... Bon, moins important que notre âge biologique, mais que l'on ne connaîtra probablement pas d'ici quelques années.
Et vous venez nous faire économiser 500 $.
Ah oui, surtout, minimum, avant taxe.
Merci, Monique. Merci d'écouter Au quotidien. On est ensemble jusqu'à 11h. Je vous souhaite une agréable journée. À venir, une chanson de Valence et puis la chronique d'Yvan Deslauriers.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Apocalypses personnels n'auront passé que quelques jours avant qu'elles ne se poursuivent de plus belle. Mais tu sais, comme moi, que je t'aime et je n'ai qu'une chose à te dire. Ne te laisse pas tomber. Tu es fragile, ne te laisse pas tomber. Vie et mort d'un mauvais quart d'heure, le plus long de tous ceux que tu as vécu. Finis les épaules de malheur, le poids qui les habitait est disparu. Et tu sais, comme moi, je t'aime et je n'ai qu'une chose à te dire. Ne te laisse pas tomber. Tu sais qui tu es, comme tu es fragile. Ne te laisse pas tomber. Tu sais qui tu es, comme tu es fragile, mais ne te laisse pas tomber. Imagine. que frisbee et marmelade. Manifestement, il nous en faut si peu pour être inconsolable. Malheureusement, d'ici là,
la vie n'est pas que frisbee et marmelade.
Comme moi,
la vie n'est pas que frisbee et marmelade.
Que je t'aime,
la vie n'est pas que frisbee et marmelade.
Oui, je t'aime,
la vie n'est pas que frisbee et marmelade.
Ouais, j'étais dans la marmelade parce que j'ai présenté ce chanteur comme étant Valence. Et non, c'est Thierry Larose qui nous offrait frisbee et marmelade. Là-dessus, on salue notre ami Yvan Deslauriers qui rigole. Bonjour Yvan.
Oui, oui, je rigolais de votre commentaire sur la marmelade.
Oui, j'essayais de m'en sortir du mieux que je pouvais. Alors,
je pense que vous êtes englué plutôt.
Ah oui, dans la marmelade?
Dans la marmelade.
Bon. Eh bien, vous allez nous parler de marche aujourd'hui. Ça, ça fait du bien. Ça nous désenglue, si je puis inventer ce mot.
Oui, oui, tout à fait. À tout temps de l'année, moi, je trouve qu'il y a toujours des bons moments pour marcher, pour observer. Et pourtant, il semblerait que... Moi, un jour, je voudrais devenir la personne qui fait les titres dans les journaux. Celui-là, je trouve qu'il a bien réussi. La marche recule.
Oui, ça a frappé l'imaginaire. Oui. Et moi, j'ai dit une activité en perte de vitesse.
Oui, oui.
Mais ça pourrait être le jogging, une activité en perte de vitesse. Mais la marche, ça dépend. Il y en a qui marchent rapidement aussi.
Oui, il y a des marches rapides. Oui, oui. Non, c'était tout à fait dans le ton. Donc, c'était dans la presse d'hier, un article de Gabriel Bélan dans la section santé. Et on parle particulièrement de santé publique parce que il semblerait que les Canadiens et les Québécois marchent de moins en moins selon un rapport dévoilé hier. Cette tendance qui s'est accélérée depuis la pandémie inquiète plusieurs experts qui y voient un réel enjeu de santé publique. Et pour tous nos auditeurs qui m'écoutent depuis des années, je pense que j'ai fait un effort pour promouvoir la marche pour la bonne santé.
Oui, oui. Avec vous, la marche avance.
Oui, ça progresse. Ça progresse. Alors, c'est connu. Marcher, c'est bon pour la santé. Les études en ce sens se succèdent. L'une d'elles, publiée l'été dernier, le notait pour la énième fois, précisant que marcher 7000 pas par jour faisait baisser de 38 % le risque de démence, de 22 % celui de dépression et de 14 % celui de diabète.
Oui, c'est « ferait baisser », hein? C'est au conditionnel.
Oui, 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 parce que je peux en témoigner, malgré tous les bons efforts qu'on peut faire, il peut quand même nous arriver des problèmes de santé. C'est toujours des probabilités quand même. Malgré ces bienfaits, la marche recule au pays. C'est le constat du plus récent bulletin de participation, l'évaluation la plus complète de l'activité physique au Canada. Il y a 6 ans, faites attention aux chiffres là, il y a 6 ans, la moitié des Canadiens de 18 à 79 ans faisaient plus de 7500 pas par jour. En fait, c'était 52 %. Ils étaient 49 % 2 ans plus tard, en 2021. Donc, une petite baisse, mais pas tant.
Mm-hmm.
Par contre, en 2025, cette année, ils ne sont plus que 32 % selon le bulletin de l'organisme.
C'est une baisse.
Ça, c'est une baisse importante. Alors, il y a d'ailleurs un graphique pour démontrer tout ça. Si on ne comprend pas les chiffres, on comprend quand même les bâtons. On voit tout de suite la baisse importante dans les 4 dernières années, de 2021 à 2025. Probablement que la pandémie en est une des causes, mais sûrement pas la seule. D'ailleurs, Denis Fortier, physiothérapeute qu'on entend souvent à la radio, qui est auteur du livre « Lève-toi et marche », déclare que ce n'est pas une petite diminution, c'est énorme. Mais ça ne le surprend pas que ça diminue. C'est une tendance de fond d'avoir des vies qui s'organisent autour de l'immobilité. la pandémie a sûrement été un accélérateur. Juste pour vous situer, c'est quoi ça, 7500 pas? Et je ferai un petit aparté aussi par rapport à ce chiffre-là. Donc, marcher 7500 pas représente environ 5,7 kilomètres. Ça dépend de chacun, ça dépend de la longueur du pas qu'on fait. Mais n'allez pas croire qu'il faut absolument une marche continue de près de 6 km par jour pour atteindre cette cible. Les humains font déjà des milliers de pas dans leurs activités quotidiennes, soit entre 4000 et 7000. C'est un peu bizarre pour moi qui est un statisticien, entre 4000 et 6685 par jour. Pourquoi être si précis, en fait? Mmh. Selon l'Observatoire de la prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal. La plupart des gens auraient de 1000 à 4000 pas à ajouter dans leur quotidien. Accumuler 1000 pas correspond à environ 10 minutes de marche. Ça, c'est ce qui est écrit dans l'article. Maintenant, il y a des gens qui savent que je fais ces petites chroniques-là sur l'activité physique à tous les jeudis. Ils me demandent 7500, 10 000 pas, est-ce que c'est difficile à faire? Puis moi, je leur réponds toujours, oubliez le chiffre. Allez marcher.
Bonne
tout
idée.
Simplement.
Ouais.
Sortez de chez vous, sortez de votre sofa, sortez de votre cuisine et faites juste aller prendre une marche, arrêtez de compter les pas.
Sortez de vos écrans, de vos cellulaires.
Oui, oui, oui. Allez prendre une marche sur l'heure du midi, allez prendre une marche le soir, achetez-vous un chien, n'importe quoi. Mais allez juste marcher puis comptez pas les pas. Simplement.
Bon, achetez-vous un chien, on retient ça.
Moi, j'aime pas les chiens, mais c'est pas grave.
Ah non!
Non, non. Mais ma belle-sœur en a un depuis peu. Et effectivement, il faut qu'elle sorte pour aller le faire pour promener. Alors, ça a quand même le bienfait pour elle d'avoir à aller marcher au moins 2 ou 3 fois par jour. C'est pas banal. Alors, pour calculer les habitudes de marche des Canadiens, Participation s'est fié à des données recueillies par des accéléromètres dans une enquête de Statistique Canada. J'ai lu cet article-là 3 fois. Je ne sais pas plus qu'est-ce que c'est un accéléromètre. Je suppose que c'est un bidule qu'on a sur soi puis qui fait que quand on bouge plus vite, il y a quelque chose qui se passe.
Bien oui. Il y a dans accéléromètre, il y a accélération.
Oui. Puis mètre pour mesurer, ouais. J'imagine. Mais... allons-y avec notre interprétation.
Avec notre intuition. Mathieu a trouvé une réponse.
C'est un appareil qui mesure la variation dans
faites ça vite.
Dans la vélocité.
Accélérer.
En fait, c'est parce que je le traduis de l'anglais.
Okay.
C'est change in velocity. C'est quand vous changez de vitesse.
Ah, OK, OK. C'est un peu comme dans les téléphones, dans les cellulaires qu'on a. Là, il y a souvent une application pour compter le nombre de pas. C'est probablement dans le même esprit. La baisse est significative, note Marianne Parent, qui est directrice générale du réseau Accès Participation, qui a participé au comité de recherche du bulletin de 2025. Elle dit, on peut attribuer ça à la pandémie et au télétravail. Les gens ne se rendent plus au travail 5 jours par semaine nécessairement. Il y a moins de transports en commun, de transports actifs, moins de pas dans le stationnement. On reste à la maison davantage. On monte au bureau au 2e étage ou on descend dans le sous-sol, donc le nombre de pas diminue beaucoup. Au-delà de la marche, le bulletin Participation conclut que 46 % des adultes, soit un petit peu moins que la moitié, au Canada, respectent les directives nationales en matière d'activité physique. Un pourcentage stable depuis plusieurs années. Cette directive recommande au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée par semaine. Ça veut dire à peu près 30 minutes par jour sur 5 jours. Puis intensité moyenne à élevée par semaine, ça veut dire qu'à un moment donné, on aurait de la difficulté à faire une conversation. On est à cause de notre essoufflement. La marche est toutefois un outil puissant pour rejoindre des populations moins actives et plus sédentaires. Elle demande peu d'équipement et est accessible à la grande majorité de la population. On revient à Denis Fortier qui réclame, lui, un sursaut du gouvernement québécois pour inverser cette tendance inquiétante. Il dit, moi, ce qui m'étonne, c'est l'absence de campagne de santé publique sur l'importance du mouvement, de la marche. Où sont l'énergie, l'argent et l'espace dédiés à la prévention, demande-t-il. Il cite en exemple les efforts déployés par le gouvernement pour réduire le tabagisme. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de modifications de notre environnement pour nous inciter à marcher. Certaines municipalités tentent toutefois de favoriser la marche. À Québec, par exemple, puis c'est une ville qui n'est pas nécessairement plate, là, Québec, là, il y a pas mal de côtes, la ville va mettre en place 43 intersections pour aînés, avec des aménagements ciblés dans des lieux fréquentés par des aînés. Québec espère leur permettre de marcher en sécurité et de les inciter à le faire. Donc, ça, c'est l'article d'hier. Et il y a toujours un résumé maintenant dans la presse, ce qu'il faut savoir. Alors, je vous laisse avec ça de cet article. Le nombre de Canadiens qui marchent un minimum de 7500 pas par jour a fondu depuis 6 ans. Les écrans et la sédentarité sont pointés du doigt, oui. sont montrés du doigt. Et des experts estiment que le gouvernement doit favoriser la marche par des mesures concrètes, car il s'agit d'un enjeu de santé publique. Mm-hmm.
Merci beaucoup. Yvan, pour ce rappel important. Mm-hmm.
Lovely to call you, c'est une chanson de Renzo Rivolta.
Et les brèves avec Monique et Yvan. Monique, les koalas passent combien de temps au sol?
C'est une nouvelle amusante, Hélène, pour changer de la grisaille peut-être de cet automne. Ben, ils passent 10 minutes par jour au sol, Hélène.
Sinon, ils sont dans les arbres?
Ben, ils effectuent en moyenne 2 déplacements de 4 minutes 30 chacun et uniquement pour passer justement d'un eucalyptus où ils mangent et interagissent avec un autre arbre, à la canopée plus dense pour dormir, nous précise l'éthologue Gabriella Sparks.
Alors les koalas ne marchent pas assez non plus.
Non, c'est sûr. C'est pour ça qu'ils sont tout. Alors, dans le cadre de sa thèse, la chercheuse australienne a équipé 9 koalas d'accéléromètres, ce dont vous parliez tout à l'heure.
Vraiment?
Oui, et enregistré leurs mouvements pendant une dizaine de jours. Alors, on connaît très mal les déplacements des koalas, parce que les balises GPS ratent la plupart du temps les sorties furtives de ces beaux petits toutous. Pourtant, 2/3 des morts sont liés à des moments passés au sol. Donc, on en sait un petit peu plus sur les déplacements des koalas. Voilà, 10 minutes par jour au sol maximum.
Ils sont tellement mignons, les koalas.
Mais oui, les beaux petits toutous.
Oui.
Gros toutous.
Gros toutous. Yvan, vous nous parlez de patins, patinage?
Oui, avec l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Est-ce que vous êtes allé au TNM récemment?
Non, ça fait un petit bout de temps, mais je sais que l'esplanade tranquille est en face.
Oui, est en face et la glace est prête. Parce que moi, je suis allé, pas patiner, mais je suis allé, il y a un restaurant juste limitrophe, puis je suis allé là. Et oui, la glace est prête. Alors, pour l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, les 2 premières sorties de patins de la saison sont prévues à l'Esplanade Tranquille, au centre-ville de Montréal. Alors, on dit aux gens de se joindre au groupe. Les dates des sorties, c'est le 5, c'est les vendredis, le 5 et le 19 décembre prochain. La rencontre se fait à 9h30, l'heure de retour à 11h30. On se réunit à la station de métro Saint-Laurent pour ceux qui sont en transport en commun, en transport adapté. On vise le 10 boulevard de Maisonneuve et on se dirige tranquillement vers la patinoire. Je lis ça et je pense que patiner les yeux fermés, ça doit être pas facile. Alors, patiner pour des gens qui ont une vue très faible ou non-voyants complet, ça doit être quand même tout un exploit, même s'ils sont avec un accompagnateur. Il faudrait que je m'essaye la prochaine fois.
Oui. Je vais aller patiner. En tout cas, il faut faire confiance à son accompagnateur ou à son accompagnatrice.
Oui, mais pour les membres de l'association, c'est comme un réflexe pour eux de faire confiance à leur accompagnateur ou à leur accompagnatrice. Et grâce à ce lien-là, ça leur permet de faire de nombreuses activités physiques, dont la marche en particulier, dont le vélo tandem et cette fois-ci le patin. Alors, ça vaut la peine d'être souligné. Mais si vous êtes intéressé, vous communiquez avec l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. C'est le 5 et le 19 décembre, le matin.
Parfait. La patinoire de l'Esplanade Tranquille qui est ouverte là, à partir d'aujourd'hui jusqu'en avril 2026 et qui est située sur Sainte-Catherine, en face oui. du TNM, comme vous le disiez si bien, Yvan. Mm-hmm. Monique, il n'y a rien de pire que la trahison. Je suis assez d'accord.
Oui, maintenant, on passe du coup à là où on rigolait un petit peu. Là, on est plus sérieux. Mm-hmm. Alors, Hélène, Internet a parlé. Des scientifiques ont passé au crible 370 000 posts et leurs 11 millions de commentaires sur le plus grand référentiel en ligne connu pour aborder des dilemmes moraux. Le forum s'appelle « Am I the asshole » que l'on traduit dans la revue Epsilon par « Suis-je un connard ?» Et c'est de Reddit. De tous les dilemmes soumis au jugement des internautes, ce sont ceux liés à la malhonnêteté qui ont le plus souvent été condamnés. Alors, soyons vigilants.
soyons honnêtes. Soyons francs.
Peut-être que le Parti libéral a des petits problèmes avec ça actuellement, non?
Un dossier... oui, il y a de la dynamite là-dedans.
Oui.
Yvan.
Oui, du bulletin de Moine Épinière et Motricité Québec, je retiens l'annonce d'un cours de conditionnement physique pour personnes lésées médulaires. Ça se donne La prochaine date, c'est le 25 novembre. On est le 20, alors c'est tout près. 25 novembre, 2 décembre, 9 décembre et le 16 décembre, c'est de midi à 1 heure. Ça se donne dans une cours de conditionnement physique, session d'automne, c'est le CISS de la Montérégie Ouest, le Centre de réadaptation à déficience physique. C'est au 5300 chemin de Chambly à Saint-Hubert. Les inscriptions sont requises. Ça prend au moins 4 participants pour que l'activité se tienne. Il n'y a aucun essai gratuit. Vous devez être membre en règle de Mémo Québec pour pouvoir vous y inscrire. Et ce, si je me fie à la photo, les gens peuvent utiliser plusieurs des appareils de musculation pour travailler différentes parties de leur corps. Donc, vous allez voir sur le site de Moelle épinière et motricité Québec, de Mémo Québec, pour plus de renseignements.
Merci beaucoup. Et la capsule linguistique, si vous me permettez, Monique, tantôt, je pensais que j'avais inventé le mot désenglué, mais il existe vraiment. C'est se libérer d'une contrainte physique, morale ou intellectuelle, se dégager d'une contrainte qui retient comme de la glu. Alors, ça peut être employé au sens figuré comme au sens propre. Et vous allez nous faire plaisir en nous parlant de l'expression, ben, je ne sais pas si ça nous fait plaisir, mais on l'entend beaucoup à la radio en pensant que c'est du bon français. Mais je ne pense pas à la fin de la journée et ultimement. Dites-nous tout là-dessus. Oui.
Alors, écoutez, c'est deux anglicismes synonymes.
At the end of the day.
Oui, mais at the end of the day, en anglais, ça a un sens, ça peut avoir un sens figuré, mais en français, non. Alors, selon la nuance qu'on veut exprimer, Hélène, on peut remplacer à la fin de la journée par, prenez vos stylos là, au bout du compte, en fin de compte, au final, quoi qu'il en soit, de toute façon, en définitive, finalement, somme toute, tout compte fait. N'est-ce pas qu'on a le choix?
On a l'embarras du choix.
Alors,
et on entend aussi, Monique, maintenant, il n'y a pas que à la fin de la journée, mais à la fin. On a enlevé le mot journée. À la fin.
Ah, j'avais pas entendu celui-là. Alors, et quand on pense à l'adverbe ultimement, ben, ça signifie en dernier lieu, d'une manière ultime. Donc, ça devrait pas être employé dans le sens de à la fin de la journée ou au bout du compte. Voilà.
Bien, merci.
Alors, c'était une demande spéciale de votre part. Si vous en avez d'autres, je les accepte avec grand plaisir.
Parfait. Et puis, vous avez toujours aussi le français au micro, les chroniques de langue de Guy Bertrand, là, qui vous alimente beaucoup.
Oui, tout à fait. Oui, j'en ai pour quelques temps, là. Il y a 400 quelques pages, alors.
400 chroniques encore avec vous, Monique. Pourquoi pas?
Oui, j'espère.
Oui. Et bon, il nous reste du temps, c'est rare, hein? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous faites en fin de semaine? Oui, Yvan.
J'ai un petit quelque chose. Toujours avec l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. C'est temps de s'inscrire pour le yoga pour cet hiver. Il y a toutes sortes de yoga, avec chaises, du yoga doux, etc. Alors, puis les séances de yoga, c'est du 7 janvier au 3 avril pour un total de 12 cours chacun. Alors, je pense que ça vaut la peine pour les personnes malvoyantes d'aller voir de s'inscrire pour un exercice tout en douceur, mais qui fait travailler le corps et la respiration constamment.
Merci pour cette belle suggestion. C'est le Salon du livre de Montréal en fin de semaine et je voulais vous annoncer, ben, peut-être que vous l'avez entendu en quelque part, mais c'est Élisabeth Lemay qui a remporté hier le prix littéraire Jeannette Bertrand pour L'été de la colère, publié par les éditions du Boréal. Le prix Jeannette Bertrand est assorti d'une bourse de 5 000 $ et récompense des œuvres littéraires québécoises ou franco-canadiennes qui abordent les thèmes de l'égalité des sexes, de l'autonomie des femmes et de la lutte contre les violences de genre. Je suis en train de lire un article dans Le Devoir. À propos de L'été de la colère, le jury a déclaré par voie de communiqué dans une écriture fragmentée, directe et sans compromis, Élisabeth Lemay met à nu les rapports entre les hommes et les femmes, expose les mécanismes du patriarcat et les violences qui l'entretiennent. C'est l'ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois, qui a présidé une fois de plus le jury. Et par communiqué, elle félicite l'autrice et souligne la qualité de son roman, une œuvre puissante et percutante qui éclaire les dérives d'un monde encore largement conçu par et pour les hommes. Donc bravo à Elisabeth Lemay, qui remporte le prix littéraire Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand, qui a 100 ans, c'est son vrai âge, ça, Monique. Ce n'est pas son âge biologique. Je ne sais pas c'est quoi son âge biologique, peut-être 200?
Son âge biologique... En fait, on pourrait s'intéresser à son âge chronologique.
Oui, oui.
Parce qu'elle a... Elle a encore tellement d'énergie. Elle animera d'ailleurs, je pense, une émission, Hélène, qui sera diffusée à Télé-Québec, avec des jeunes.
On y reviendra. Voir. Oui, des jeunes comme elle, finalement. Merci, Monique. Merci, Yvan. À la prochaine.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et c'est l'heure de la chronique Parasport en compagnie de Dominique Tremblay. Bonjour Dominique.
Bonjour Hélène, comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Et vous?
Très bien, très bien. C'est très beau à l'extérieur avec les arbres, avec le givre sur les arbres, c'est très, très beau.
Oui, oui.
De l'autre côté de la fenêtre, c'est toujours le fun.
Alors, oui, au bien au chaud. Ouais, on commence avec un Canadien qui est nommé l'athlète de l'année par le Comité international paralympique.
Oui, je vais spécifier, c'est pour les Jeux d'hiver, le paraplanchiste Tyler Turner, bon, en anglais on parle, il fait du snowboard, puis c'est un des plus grands espoirs de médaille pour le Canada pour les Jeux paralympiques de Milan-Cortina au mois de mars. C'est lui qui a été nommé l'athlète de l'année en 2025. Il a connu une saison remarquable, remportant à la fois le trophée du globe de cristal décerné au vainqueur du classement général. À chaque compétition, paraplancheurs reçoivent un classement et dépendant de son classement, ils reçoivent des points. Et c'est comme ça que lui qui a gagné le plus de points remporte le globe de cristal. Il s'est aussi illustré lors du championnat du monde de 2005 et c'était son troisième titre mondial consécutif. Donc, c'est un des leaders là, en para-snowboard à travers le monde. Ça fait pas longtemps que ça fait partie des Jeux paralympiques. La première fois, c'était en 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. Tyler est amputé des deux jambes en bas des genoux à la suite d'un accident de parachutisme. Donc, pour faire du parasnowboard, il y a des prothèses spéciales qui sont attachées après sa planche et il met ses prothèses juste avant d'embarquer là, sur la piste, juste avant le départ, et descend la piste comme ça. Donc, c'est assez spectaculaire. Vous allez pouvoir le regarder lors des Jeux paralympiques et on espère qu'il sera sur une des plus hautes marches du podium.
Félicitations donc à Tyler. Quel est son nom de famille déjà?
Turner.
Tyler Turner.
C'est ça.
TT, merci beaucoup. Retour maintenant sur le tournoi de rugby en fauteuil roulant en République tchèque.
Oui, j'en avais parlé la semaine dernière à votre collègue qui a pris élégamment votre place lors de ma chronique la semaine dernière.
Denis Martin, donc, qu'on salue.
Bonjour, monsieur. Et le tournoi commençait cette journée-là, donc j'avais donné les résultats des deux équipes canadiennes qui participaient à cette compétition. Donc, l'équipe canadienne B de rugby en fauteuil roulant a remporté le tournoi en division 2. C'était un tournoi qui regroupait plusieurs équipes de clubs européens, là, évidemment de la République tchèque, puisque c'était à Prague, de la Grande-Bretagne, Slovaquie, des endroits comme ça. L'équipe nationale B, donc de développement, a rapporté la médaille d'or en gagnant tous ses matchs. Donc, beau travail pour cette équipe. Il y avait plusieurs athlètes québécois qui étaient sur cette équipe et deux se sont illustrés. Mélanie Labelle a remporté le prix pour la meilleure 1 point. Donc, chaque joueur a une classification attitrée à eux. Et il peut pas avoir un maximum de 4 joueurs sur le terrain. Le nombre de points qui est donné à chaque joueur peut pas dépasser 8 au total des 4 athlètes. Donc, Mélanie Labelle, la meilleure 1 point. Maxime Arsenault, le meilleur 1.5. Il y a l'arbitre Jolie-Anne Lévesque qui a remporté le prix de la meilleure arbitre. Il y avait aussi une équipe totalement féminine du Canada. Elles n'ont pas réussi à remporter de victoire, mais c'était quand même une belle expérience. C'était la première fois qu'il y avait une équipe complètement féminine pour participer à cette compétition.
On passe maintenant à une petite chronique de mode très chère.
Oui, ben c'est ça. Ça, c'est un des moments importants là, pour chaque athlète qui participe à des Jeux paralympiques. On a dévoilé les uniformes que les athlètes canadiens, tant olympiques que paralympiques, vont porter lors des Jeux. Donc, surtout lors de la cérémonie d'ouverture et de clôture, ainsi que durant les médailles. C'est la compagnie Lululemon qui fournit les uniformes.
Ils sont beaux cette année, je trouve.
Oui, très, très beaux, des belles couleurs. Des fois, on avait souvent le noir, évidemment le rouge, avec un peu de beige, mais cette fois-ci, c'est vraiment un genre de turquoise métallique un peu foncé. Ça fait vraiment spécial. Et évidemment, vu que ça s'adresse, il y a plusieurs athlètes, évidemment, tous les athlètes paralympiques canadiens vont porter cet uniforme. Donc, il y a des petites modifications qui sont apportées à leur uniforme pour leur permettre une facilité dans les vêtements qu'ils peuvent porter pour les personnes avec différents handicaps. Donc, très bonne initiative de la part de Lululemon, et certains morceaux de vêtements, là, excusez-moi si je ne dis pas de la bonne façon, vont être disponibles dans les magasins de Lululemon pour les acheter. Donc, si vous voulez soutenir vos équipes olympiques et paralympiques, allez faire un tour dans les boutiques de Lululemon.
Parfait, merci beaucoup. Les morceaux, comment on pourrait dire, les pièces?
Pièces de vêtements, oui, ouais, c'est ça, okay. Pièces de vêtements.
Et en terminant, Dominique, le comité organisateur de Los Angeles 28, vous parlez de 2028, a dévoilé l'horaire de compétition pour les Jeux paralympiques.
Oui, c'est ça. Donc, plusieurs, 28, c'est quand même dans trois ans, l'horaire de compétition a été annoncé hier à la marque des 1000 jours du début des Jeux paralympiques. Il y a 23 sports lors des Jeux paralympiques d'été de Los Angeles. 560 médailles vont être remises. Il y a 294 sessions de compétition qui vont avoir lieu durant les Jeux paralympiques. Et les cérémonies d'ouverture seront le 15 août 2028 et les cérémonies de clôture seront le 27 août au Colisée Mémorial de Los Angeles.
Bon, alors là-dessus, je vous dis un grand merci, Dominique, pour cette belle chronique.
Oui, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Continuez d'observer et d'admirer le beau paysage de votre salon.
C'est en plein ce que je vais faire. Bonne journée.
Au plaisir. Au pour ceux et celles qui veulent sortir, bien, il y a le Festival M pour Montréal qui a débuté hier et qui se poursuit jusqu'à samedi, le 22 novembre. Il y a des spectacles un peu partout à l'Olympia, au MTLUS, le Ministère, les Faux-Fonds électriques, le Théâtre Fairmont, le Club Soda, la SAT aussi, la Salle Rossa. Merci, très cher. L'événement attend plus de 80 artistes locaux et internationaux. Comme cet artiste qu'on écoute, un artiste local, Childhood Friend dans Rêve. Et tout de suite après, ce sera la chronique Psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière.
Sous-titrage Société Radio-Canada. chaque fois le poids de nos mots. Personnellement, je crois que tout ça c'est un peu ma faute. J'essaye, je crois bien que j'ai changé. Tu me diras, t'es où? Je me demande.
La chanson rêve de Childhood Friend.
Merci beaucoup, Mathieu. C'est la chronique psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice du projet Intercom. Bonjour, Roxane.
Bonjour, Hélène.
C'est une journée pédagogique pour une de vos filles aujourd'hui qui est là et je vais la nommer parce qu'elle est à l'écoute. Je parle de Blanche. Bonjour, Blanche, qui est accompagnée de sa bonne amie Olivia.
Exactement.
Alors, aujourd'hui, le sujet ou la question, comment les limbes juridiques influencent-ils la sécurité psychologique des demandeurs d'asile et leurs familles?
Merci, Hélène. Je me suis intéressée à cette question parce que j'ai travaillé avec une étudiante qui s'appelle Gila Kuhlman-Gonvalez et Iliane Miriandette qui s'est intéressée à ce sujet. Et puis, on a eu plusieurs échanges parce que Gila travaille comme psychothérapeute auprès de demandeurs d'asile qui ont été marqués par des grands traumatismes, le déracinement, l'incertitude liée à leur statut. Puis ensemble, on s'est penché sur les façons dont le contexte de l'immigration peut affecter la sécurité, le sentiment de sécurité des familles et puis leur capacité à offrir un cadre qui est stable à leurs enfants. Donc, c'est vraiment en lien avec les enfants et avec la famille. On va prendre l'exemple d'un cas d'une femme qui s'appelle Anna. Comme beaucoup d'autres, elle est venue au Canada à la recherche de protection. Elle et son mari et leurs trois enfants ont fui un massacre dans leur village en Afrique, dont ils sont les seuls à avoir survécu dans leur famille. Pour se rendre au Canada, ils ont dû passer quelques mois en Amérique du Sud, traverser une périlleuse forêt et se rendre en Amérique centrale. Pendant les 4 années suivant leur arrivée au Canada, Anna a craint pour la sécurité de sa famille, sans nouvelles de leur audience d'asile et dans l'angoisse d'un retour vers des violences qu'ils ont fuies. La date de leur audience à ce jour a été, vient juste là d'être donnée, donc c'est plus de 4 ans.
Donc, le processus d'immigration semble bien compliqué, très, très complexe. Quelles sont les réalités de l'immigration, Roxane?
Selon les Nations unies, le nombre de personnes déplacées à l'international a atteint 122 millions à la mi-2024. Parmi eux, 40 % étaient mineurs, donc il y a beaucoup d'enfants là-dedans. Donc, demander l'asile en raison de la guerre, des conflits ou de la persécution, c'est un droit humain fondamental. Le Canada participe à la réinstallation des réfugiés depuis 1969. Donc, mais il existe toujours un écart entre les statuts. Les réfugiés, par exemple, bénéficient d'une protection légale avant leur arrivée, tandis que les demandeurs d'asile doivent attendre sur place, ici au Canada, la réponse à leur demande dans une situation qui est souvent très, très précaire et sans avoir les mêmes droits. Donc, si on pense à la situation d'aujourd'hui, en 2023, ça prenait environ 19 mois avant d'avoir une réponse, alors qu'en 2024, ça prend maintenant 38 mois.
Mmh, ça a doublé.
Ça a doublé. Les familles vivent dans les limbes juridiques, d'où ce terme, c'est-à-dire une période d'incertitude en attente d'une décision officielle.
Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur les limbes juridiques?
Oui, en effet, c'est un statut migratoire qui est précaire. La peur que la demande d'asile soit refusée s'accompagne évidemment de sentiments d'incertitude, d'insécurité, comme la crainte d'être expulsé et l'instabilité liée au logement. Les demandeurs d'asile, il y a beaucoup de difficultés liées à l'intégration. Il y a de la discrimination, de la stigmatisation, de l'exclusion sociale. Puis il y a beaucoup de barrières aussi liées à la langue lorsqu'ils doivent s'intégrer, évidemment. En plus, ils sont séparés de leur famille, ils n'ont pas nécessairement de soutien social, puis il y a des obstacles fréquents comme l'accès aux services en milieu de travail, puis être limité dans le temps qu'ils peuvent passer réellement avec leurs enfants parce qu'ils sont dans un mode de survie. Donc, si on repense au cas de Anna, elle travaillait quelques jours par semaine dans un hôtel en espérant décrocher un poste permanent et son mari, lui, travaillait de nuit dans un entrepôt puis il avait peu de temps pour s'occuper des enfants.
Alors, on peut bien imaginer que les limbes juridiques ont des impacts sur la santé mentale.
Exactement. C'est un statut qui est incertain, précaire. Ça génère de la peur, de l'instabilité, de la détresse émotionnelle. Souvent, il y a des symptômes post-traumatiques qui sont présents, comme des flashbacks, l'hypervigilance, tu sais, quand on est toujours en train de se demander si quelque chose va se passer. Donc, les personnes qui sont sans statut souffrent beaucoup plus de troubles de santé mentale que les réfugiés, par exemple. Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis en 2021 auprès de 78 personnes qui ont vécu de la torture puis qui avaient des symptômes post-traumatiques et de dépression aux États-Unis et qui demandaient l'asile. Et la recherche a clairement montré que l'octroi de l'asile faisait en sorte que les symptômes post-traumatiques diminuaient. aussi qu'il y avait une meilleure santé mentale et ils pouvaient aller plus rapidement vers la réunification familiale, leurs conditions de vie s'amélioraient. Et puis surtout, il y avait une réelle reconnaissance des souffrances vécues qui offrait un cadre plus légitime, social, moral aux demandeurs d'asile.
Et quelle influence le traumatisme des parents et l'attente du statut peuvent avoir sur la relation parent-enfant?
Oui, ça peut être extrêmement difficile parce que vous savez, quand on a n'importe quel tracas, souvent on est moins disponible pour aider les autres. Et si on a des enfants, nos enfants...
Le ressentent.
Exactement. Puis nos enfants, hein, je sais que quand je vais moins bien, bien Blanche, elle va le savoir, puis elle va me dire « Maman, ça va-tu? »
Ouais.
Mais si j'étais un demandeur d'asile, puis ça dure des mois et des mois, donc c'est un stress qui...
Ça laisse des traces.
Exactement, ça laisse des traces et ça s'ajoute à des traumas déjà vécus, puis à la peur d'être retournée dans le pays d'où je viens aussi, où, par exemple, dans ce cas-ci, ma famille a été tuée.
Donc, une transmission de la peur.
Oui, une transmission de la peur, puis ça peut créer une vulnérabilité qui est vraiment importante. Puis, dans le cas d'Anna, dans l'exemple que je vous ai donné, sa fille de 8 ans, elle s'est mise à faire des cauchemars sur les atrocités dont elle avait été témoin. Puis, elle avait peur de devoir déménager à nouveau. Puis, c'est son enseignante qui était préoccupée. Elle trouvait qu'elle manquait d'engagement en classe. Puis, elle a contacté Anna pour lui en parler. Puis, c'est là qu'Anna a réalisé que son propre traumatisme se transmettait, puis son anxiété aussi affectait réellement ses enfants. Donc, les parents qui ont des symptômes post-traumatiques peuvent être plus évitants, parfois surprotecteurs ou intrusifs parce qu'ils ont peur que quelque chose arrive à leur enfant. Donc, ça peut susciter la peur chez leurs enfants, même sans le vouloir. Donc, c'est important quand on est parent d'offrir une base sécurisante à nos enfants, mais quand cette base-là, on ne l'a pas ou qu'on est dans un état une situation qui est précaire, ça peut être plus difficile. Dans le cas d'Anna, ben, elle était épuisée émotionnellement, puis la pression qu'elle vivait en lien avec sa survie, ben, ça diminuait sa capacité de rassurer sa fille puis de lui offrir un sentiment de sécurité. Puis aujourd'hui, elle a encore ses symptômes en attente de son audience.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces familles?
Évidemment, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je pense qu'au niveau politique, on devrait vraiment penser à l'humain qui est derrière cette demande-là, l'humain et la famille, puis peut-être d'augmenter, ou c'est-à-dire de diminuer les délais pour accorder les permissions de rester, les certificats, etc. Évidemment, il y a des interventions psychosociales qu'on peut faire comme pour essayer de renforcer la capacité parentale. Il y a des organismes communautaires qui sont habilités à aider les demandeurs d'asile dans leur recherche d'emploi, par exemple. Il y a des banques alimentaires. Puis au niveau des écoles, bien, c'est important que les enseignants aient cette problématique en tête, parce que l'école donne un sentiment de sécurité et surtout de normalité aux enfants. Donc, c'est un espace où les enfants peuvent partager leur expérience migratoire. Il y a même des initiatives recherche-action qui mettent l'accent sur ces questions pour aider les enfants.
Bon, au moins, il y a quelques pistes de solutions, il y a de l'espoir. Et pour terminer, Roxane, qu'est-ce que vous recommanderiez? Vous avez un livre là, que je trouve vraiment formidable, qui me semble extrêmement pertinent pour ceux et celles qui veulent mieux comprendre la réalité des personnes immigrantes au Québec.
Oui, puis dans ce cas-ci, c'est des demandeurs d'asile. Donc, c'est le livre « Là où je me tairs » de Caroline Dawson, 2020. C'est magnifique. Elle raconte son enfance à Montréal après que sa famille ait fui la persécution politique au Chili des années 80. L'autrice écrit sur les difficultés d'intégration et les sacrifices de ses parents. J'ai trouvé un extrait, mais il y en a plusieurs. Honnêtement, j'ai eu de la difficulté à en choisir un. J'aurais pu vous lire
le livre
au complet. Donc, allons-y. « Mes parents travaillaient dans l'anonymat, à l'abri des regards. Dans la pénombre, personne ne pouvait voir que ma mère était de celles qui adorent les tout-petits, même ceux qui ne sont pas les siens, et qu'elle passait toute sa vie à s'en vouloir d'avoir manqué une partie de notre enfance à travailler 2-3 jobs pour arriver. Personne ne devinait que mon père était le meilleur orateur que j'ai rencontré, que quand il parlait, tout le monde l'écoutait. En faisant le ménage, il se taisait. »
Oui, c'est poignant. C'est assez touchant.
Ouais.
Alors, c'est un livre à lire et à relire, « Là où je me taire » de l'autrice trop tôt disparue,
oui,
Caroline Dawson. Roxane de La Sablonnière, merci beaucoup. On se retrouve le 11 décembre.
Oui, merci, bye-bye.
Les territoires du Nord-Ouest, un arc-en-ciel sur le trottoir. Les territoires du Nord-Ouest, au mois d'avril, il fait plus noir. Le soleil brille sur les diamants, un couteau jaune, un couteau blanc, glissé à travers les brouillards, sur un traîneau sur de l'ivoire. Comme les frissons d'une caresse, la chair de poule puis tout le reste, le chaud, le froid dans ma veste, ça me fait penser à toi ma best. Un cœur en exil, un corps en quête, un nouveau son dans les oreilles. C'est peut-être parce que c'est ta fête, mais cette nuit j'ai comme pas sommeil. Le monde a le goût de te voir ici, j'arrête pas de leur parler de toi. Territoire du Nord-Ouest, il manque juste toi, viens donc me trouver. Un territoire pas de stress, ça prend 6 mois pour une journée. C'est pas pour l'or ni les diamants, juste un air de banjo dans un canot. Un cœur en exil, un corps en quête, le silence sur des kilomètres. Les territoires du Nord-Ouest, c'est vraiment beau, mais je m'ennuie de toi. Les territoires du Nord-Ouest, faut que tu viennes faire un tour cet été. Y'a plein de monde qui t'attend là-bas.
Déjà.
Ça fait un bout, je te parle déjà. Le monde a le goût de te voir ici,
J'arrête pas de leur parler de toi. T'as plein d'amis qui t'aiment déjà, ils t'aiment même s'ils te connaissent pas autant que moi. Ça tu le
C'est une chanson de Marc Derry qui s'appelle « Devinez quoi? Territoire du Nord-Ouest ».
Et ça fait partie, cette chanson, de son plus récent album, excellent récent album, comme tout ce que fait Marc Derry. Je suis une fan pas mal. Vous aussi, hein, Mathieu?
Oui, j'aime bien.
Oui. Gabriel Tremblay, PDG de l'année, les affaires dans la catégorie économie sociale, coopérative ou OSBL. Après 36 ans à travailler dans les entreprises adaptées, Gabriel Tremblay a beaucoup accompli à la tête du groupe TAC, T-A-Q. À Québec, le PDG avait d'ailleurs reçu une mention coup de cœur de notre jury en 2021. L'entreprise adaptée qu'il dirige se spécialise dans les services de sous-traitance, d'assemblage et d'emballage, ainsi que dans le conditionnement alimentaire. Elle emploie 350 personnes, dont plus de 80 % sont en situation de handicap, des handicaps qui varient de la santé mentale à la déficience intellectuelle, au spectre de l'autisme ou aux limitations physiques. Notre mission est de faire travailler des gens qui ont du mal à intégrer le marché régulier du travail, dit Gabriel Tremblay, des personnes qui malheureusement ne sont pas compétitives sur le marché. Ici écrit entre guillemets, ce qui est loin de vouloir dire que le groupe TAC n'est pas compétitif depuis son arrivée. À la tête de l'entreprise, en 2013, les revenus sont passés de 2,8 millions à plus de 20 millions aujourd'hui. Avec l'acquisition en 2021 de sa division Faber, premier fabricant de raquettes à neige du Canada, Groupe TAC est devenu le fournisseur exclusif de Decathlon Canada et de Costco Canada. De plus, l'entreprise adaptée, l'une parmi les 37 au Québec, compte également d'autres clients prestigieux comme Family Prix, Chocolat Favori, Biscuit Leclerc et Bimbo, Gâteau Vachon, pour ne nommer que ceux-là. Il y a 115 000 personnes au Québec qui ont des contraintes sévères à l'emploi. Alors, si seulement 10 % de ces personnes ont le potentiel de travailler, ça donne une idée du potentiel en général, dit Gabriel Tremblay, qu'on salue et qu'on félicite. Déjà terminé. Merci, Mathieu Tessier, en régie. Et ici, Hélène Denis qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite un beau long week-end. On va peut-être se croiser au Salon du Livre, qui sait? Et je vous retrouve mardi, c'est Denis Martin Chabot qui sera avec vous lundi.